يا ربي ما يخليك.
C'est quand même très important cette histoire du 17 octobre, c'est que ça n'est pas rien. Et donc, depuis des années et des années, des dizaines d'années, hein, avant 30 ans pour certains d'entre nous, le 17 octobre doit être absolument l'occasion, non pas uniquement de commémorer, parce qu'on n'est pas, uniquement dans l'évocation de la mémoire. Voilà, de façon rituelle, comme on va rallumer la flamme du soldat inconnu bientôt le 11 novembre, comme les impérialistes vont rallumer la flamme du soldat inconnu de leur guerre le 11 novembre prochain. Mais pour nous, il est très important de commémorer ce 17 octobre en tant qu'enseignement pour l'histoire, en tant qu'enseignement pour les générations présentes et futures. Et justement, puisque juste avant d'arriver ici, nous avions un petit débat avec une commerçante dans le coin, là, tout à fait improvisée, et qui disait qu'elle en avait assez, elle aussi, de la repentance, etc., etc. Alors on lui avait bien expliqué que nous n'avons jamais eu comme idée qu'il y ait la moindre repentance. Et d'ailleurs, pour qu'il y ait une repentance, encore faut-il qu'il y ait une demande de pardon. Alors c'est loin d'être le cas. Nous sommes dans la reconnaissance d'un fait, le 17 octobre, qui, contrairement à une idée reçue depuis 2011, n'est toujours pas reconnue. Il y a eu, de la part de M. Hollande, sur le pont de Clichy, en octobre 2011, un des lieux où des Algériens ont été martyrisés. Et donc, il était allé faire un tour là-bas avec M. Benjamin Stora, et à cette occasion, il avait fait une petite déclaration qui avait été reprise par les agences de presse, et qui, pour beaucoup, semblait mettre un point final à cette histoire du 17 octobre. Il avait dit, la République, alors je cite à peu près de mémoire, mais c'est, hein, je ne m'en voudrais pas, mais c'est à peu près cela, je vous le garantis. Il avait dit, en gros, que la République reconnaissait des gens qui ont été assassinés parce qu'ils demandaient, enfin des Algériens qui ont été assassinés parce qu'ils demandaient l'indépendance de l'Algérie. Ce que nous avons trouvé tout à fait insuffisant pour deux raisons. La première, il n'y avait pas de précision sur qui avait assassiné, encore une fois, ces gens-là, parce que le fait de parler même de répression, comme le fait la plaque que Delanoë a mise sur le pont Saint-Michel, n'est pas suffisant selon nous. Quand il y a un crime, il doit y avoir un criminel de désigné. Il ne peut pas y avoir de crime sans criminel. Or là, nous sommes devant ce fait. On est forcé de reconnaître évidemment qu'il y a eu un crime, bien évidemment, mais sans criminel. Or, c'est quelque chose qui est absolument impossible en termes de droit. Il ne peut pas y avoir de crime sans criminel. Il ne peut pas y avoir de crime sans criminel, il ne peut pas y avoir de criminel sans sanction. Or là, le criminel n'est pas désigné, et bien sûr, nous sommes loin du compte en ce qui concerne une éventuelle sanction. Une sanction qui, pour nous, ne serait pas une sanction pénale dans un but de vengeance, mais qui serait une sanction, même symbolique, hein, mais pour l'histoire, pour la postérité, pour la dignité même de ce pays. Mais il semble que certains nombre de dirigeants de ce pays n'aient que faire même de la dignité de ce pays, puisque ce serait à l'honneur de ce pays, justement. On voit bien contre quoi il échange sa dignité. Contre la molle satisfaction d'avoir toujours agi en fonction de prétendus droits de l'homme, qui ne sont qu'un paravent pour les actions de l'impérialisme français. Il en fut ainsi le 17 octobre 61. Donc nous allons voir ce film. Un film de Jean-Jacques Béril, qui retrace en gros les événements, mais qui aussi s'attache à la façon dont ces événements ont été commémorés à différents moments. Le film est sur une très longue durée, enfin, il évoque une longue durée historique, grosso modo les années 2000, et différents moments de commémoration du 17 octobre, avec des interviews, etc., vous verrez. Donc c'est pas uniquement sur le fait 17 octobre, qui commence à être un petit peu connu, on pourra y revenir dessus, mais c'est aussi sur les réactions que ce 17 octobre, hein, eh bien, les réactions que ça a entraîné jusqu'à nos jours. de la part de différents intervenants, de différents acteurs sociaux, comme on dit. Alors, le PIR, le Parti des Ingénieurs de la République, est évidemment un parti de colonial. Il est tout à fait attaché à l'évocation de ce 17 octobre, comme de tous les autres massacres coloniaux. Le PIR s'est constitué donc en 2005, et une de ses premières manifestations publiques, c'était le 8 mai. Le 8 mai, jour des massacres de Sétif et Guelma. Encore une fois, non pas que nous soyons centrés uniquement sur l'histoire algérienne, hein, mais il se trouve que ce pays, la France, l'impérialisme français, rencontre souvent l'Algérie dans les méandres de ces convulsions. Donc du coup, voilà, 8 mai 45, qui pour nous était l'évocation de tous les massacres coloniaux, pas uniquement le massacre du peuple algérien. Et il en va de même pour le 17 octobre, qui pour nous doit faire, cette évocation doit faire date. Le 17 octobre est pour nous l'occasion d'évoquer les crimes racistes aujourd'hui. C'est en ce sens que c'est très important. Le silence qui a permis, ou l'indifférence qui a permis le massacre du 17 octobre, c'est la même indifférence qui aujourd'hui permettent les crimes policiers, les crimes racistes, la chasse aux sans-papiers, l'immonde chasse aux sans-papiers qui se déroule dans nos rues. Ça n'émeuve personne. Enfin, très peu de monde en tout cas, sauf les militants, les gens conscients. Mais je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'assister à cette chasse à l'homme dans le quartier de Château d'Eau. Personnellement, ça m'est déjà arrivé. On voit la police qui débarque, qui déboule des dizaines et qui décide de faire une chasse aux sans-papiers et qui rentre dans les boutiques, dans toutes les boutiques africaines, vous savez, dans toutes les boutiques de coiffure africaines, qui se met à pourchasser les gens. Les gens c'est la panique totale. Et on a des femmes qui abandonnent leur sac et qui courent en abandonnant leur sac dans le salon de coiffure, partout. C'est absolument terrible, terrible, terrible. Et dans la différence totale des autres, disons-le, des Blancs, qui voient cela comme simplement... Et 300 mètres, 400 mètres plus tard, il y a des gens qui font la fête, hein. Il y a des sortes de fêtes dans la rue, il y a des gens qui sont en vélo, les bobos parisiens fument leur joint et tout, il n'y a aucun souci. Voilà. Et on a l'impression de deux mondes parallèles. Non, mais j'ai rien contre le fait qu'il fasse sa fête, la question n'est pas là, il ne s'agit pas de poser des... Mais simplement, cette mise en parallèle de deux mondes totalement hermétiques, avec des sous-hommes qui sont là, que l'on poursuit, que l'on peut attraper, et dans les mauvaises circonstances de l'histoire, que l'on peut jeter à la Seine. Mais c'est cette même indifférence qu'il s'agit d'interroger, vous voyez ce que je veux dire? Donc il ne s'agit pas de faire ni de la repentance, ni simplement de l'évocation, de la commémoration banale et répétitive, et qui, à mon avis, au bout d'un moment, cesse. Non, c'est simplement une édification pour l'histoire, pour les consciences. Une édification pour l'histoire et pour les consciences. Et comment se fait-il que nous soyons capables aujourd'hui de passer à côté de gens que l'on pourchasse dans les rues comme du gibier? Comment est-il possible que nous soyons capables, eh bien, de nous habituer finalement à ces crimes policiers, à ces crimes policiers terribles, qui à chaque fois endeuillent des familles, qui ne s'attendaient pas du tout à cela, hein, je veux dire, bon, on le voit tous les jours. Comment se fait-il que nous soyons capables de nous taire devant ce qui est fait aux Roms actuellement, devant ces camps de Roms que l'on incendie, devant ces Roms que l'on pourchasse, et devant cette espèce de bonne conscience contre les Roms qui touche même des gens issus de nos communautés, disons-le. Pas uniquement les méchants, les Blancs, mais aussi nous, on l'a vu dans certaines villes, Bobigny et ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout cela qu'il est important d'interroger. Pourquoi? Parce que, bon, voilà. Pourquoi? Ça, c'est notre question. On pourra en discuter. Alors, j'en dis pas davantage, juste un mot sur le film. Donc, c'est un film de Jean-Jacques Béril que vous allez voir, et puis nous aurons l'occasion de revenir dessus. Jean-Jacques Béril qui devait être là, bon, sans doute le soleil aura eu raison de lui, mais peut-être qu'il va arriver, peut-être que je suis simplement mauvaise langue. Donc, en tout cas, on le remercie pour son film, de toute façon, hein, dont on va pouvoir parler, qu'il soit là ou pas. Et ben, écoutez, on peut le lancer, puis on se retrouve après ce film, qui c'est à 50 minutes, je crois, hein, c'est ça. Donc, voilà comment on va faire les choses. Donc, je reviens juste un petit peu sur certains faits.
Ouais, ouais, ouais.
Et puis ensuite, eh bien...
Oui, ouais, parce qu'il est fait pour être
ouais.
Décortiqué.
Voilà. Donc, très rapidement, donc, je pense que tout le monde connaît maintenant le 17 octobre. Enfin, juste, j'en dis rapidement un mot, ça permettra de revenir sur des éléments de l'argumentaire opposé. Donc, simplement, pour dire que le 17 octobre n'est pas un fait isolé, ce n'est pas un massacre isolé, qui serait une bavure due à Maurice Pacon, encore une fois. Il s'inscrit dans une longue suite de crimes d'État, de massacres d'État, organisés par l'impérialisme français. Donc le problème n'est pas de fustiger les Français en tant que tels, je crois que le propos n'est même pas là, le propos est de viser, de cibler un système politique qui est l'impérialisme. L'impérialisme, c'est pas uniquement un mot en l'air, c'est un mot qui fait peur, c'est un mot en isme, c'est l'impérialisme, c'est aussi c'est un système de production, évidemment, hein, c'est un mode de production, d'abord, n'oublions pas, mais c'est aussi un conditionnement, un lavage de cerveau, une mise en conformité des esprits d'un pays, de façon eh bien, à les faire marcher comme des petits soldats derrière les intérêts de leur impérialisme. Et c'est cela que l'on voit le 17 octobre. Donc le problème du 17 octobre, ce n'est pas des policiers qui auraient été particulièrement nerveux, particulièrement sadiques. Ce n'est pas celui d'une population française qui a assisté sans rien dire au massacre quand elle ne l'a pas soutenu parfois. Ce n'est pas uniquement ces appelés qui sont allés en Algérie. C'est tout un système qui a conditionné une population à agir de la sorte. Donc ce qui est en cause, c'est un système. Et tant que ce système sera en place, eh bien, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Ce qui s'est passé est appelé à se répéter. D'abord, il s'est produit, et nous vous le disons, tous les éléments politiques qui ont abouti à ce massacre du 17 octobre sont tout à fait actifs encore aujourd'hui. Ça n'est qu'histoire de circonstances. Vous mettez une guerre et la même chose se produira. Les circonstances exceptionnelles d'une guerre ou d'une tension particulière, et absolument la même chose se reproduira. Et ça, il est absolument important de le comprendre, sinon on ne comprend rien donc à l'histoire. Donc ça, cela étant dit, très rapidement sur le 17 octobre, si tu me permets, je reviens un petit peu.
Non, mais...
Il est important toujours de le dire et de le répéter, parce que on est effrayé par cette espèce de silence. J'ai un manuel scolaire ici, donc je pourrais vous le montrer. Hein. Il n'y a toujours rien donc de terminal, hein. Il n'y a toujours rien sur le 17 octobre. Et même, j'en dirai un mot, c'est assez intéressant de voir comment... Donc il est de 2012, hein, le nouveau programme de 2012. Donc c'est intéressant parce que tout ce qui concerne la guerre d'Algérie, c'est pour ça que j'en dis un mot, est tout à fait intéressant parce que c'est relégué dans les mémoires. Vous savez que la mémoire est entrée de façon fracassante dans les programmes maintenant. Ça n'est pas une bonne chose, selon moi. Ça n'est pas du tout une bonne chose, selon moi. Je crois que ça a été un piège. Et dès le départ, nous l'avons dit, que la mémoire, en tant que telle, était un piège. Parce qu'on va facilement pouvoir opposer les mémoires en disant... Pour la guerre d'Algérie, eh bien, il y a différentes mémoires. Il y a la mémoire des Algériens, bien sûr, nationalistes. Il y a la mémoire des harkis. Il y a la mémoire comment des soldats qui étaient engagés dans cette guerre. Il y a la mémoire des métropolitains. Il y a la mémoire des juifs d'Algérie. Donc finalement, on va pouvoir opposer toutes ces mémoires. Vous savez ce que c'est ? Quand il y a une opposition des mémoires, on arrive à un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que finalement, bah, tout le monde a raison ou personne n'a tort, en quelque sorte. Or, ce n'est pas vrai. Le problème pour nous, ce n'est pas de distribuer les bons points. C'est de mettre en place... les éléments qui nous permettent de comprendre comment on aboutit à ces situations. C'est ça qui est important. Donc, aujourd'hui, bah regardez, on a les mémoires. Alors, l'historien, la transmission des mémoires. Et ce qu'il y a de terrible, c'est que l'historien de la guerre d'Algérie, alors, il y en a pour tout le monde. Hein. Donc, on a les harkis, on a tout le monde. Puis finalement, bah voilà. Alors, 17 octobre 61, les Algériens. Donc ici, là, des Algériens, il y a une petite photo. C'est la photo qu'on voit dans le film. Donc, mais voilà, et on comprend. Je doute que les élèves... comprennent vraiment ce qui s'est passé, parce qu'on leur dit, ben voilà, il y a différentes mémoires, et le souvenir que certains en ont n'est pas le même hein, que les autres. Voilà tout ce qu'on peut dire. On est en 2014, quand même. Plus de 50 ans après, on en est toujours là. Donc c'est terrible. C'est absolument terrible. Alors, par rapport à cela, oui...
Je voulais te demander, juillet 42, alors comment c'est oui considéré, justement.
Alors justement, alors on vous dit, il y a assez de recul. On vous dit, excusez-moi, je suis absolument désolé, on vous dit pour la Seconde Guerre mondiale, là c'est bon, il y a assez de recul. Mais on vous dit, c'est expliqué, hein, mais on vous dit, mais par contre, pour la guerre d'Algérie, il n'y a pas encore assez de recul. Bien sûr que non, bien sûr que non, parce qu'on sait très bien que, 50 ans après la Seconde Guerre mondiale, même pas, je veux dire, personne n'a jamais opposé cela, je veux dire, à propos de la Seconde Guerre mondiale, et aussi bien des années 60 que des années 70 que des années 80, je veux dire, non, c'est un mensonge, c'est un pur mensonge. C'est un pur mensonge. Alors, bien évidemment, donc c'est très dangereux, cette histoire de relégation de la guerre d'Algérie à la mémoire. Ça, c'est une chose. Il s'agit d'histoire. Et il faut absolument que ces faits fassent partie de l'histoire de ce pays. Et non pas dans un but de repentance, encore une fois, mais dans un but d'édification des esprits. Alors, cela étant dit, j'ai commencé un peu trop vite. Je voudrais d'abord rendre hommage à deux personnes. À Jean-Luc Elodie, que l'on voit beaucoup dans ce film. Jean-Luc Elodie qui parle beaucoup. Hein, c'est lui qui s'exprime. Et dans le film, vous l'avez peut-être reconnu, il avait les cheveux un petit peu grisonnants, là, autant. Et puis Mouloud Aounit. Et Mouloud Aounit, que l'on voit également. Et ce sont deux personnes à qui je veux rendre hommage, qui sont morts maintenant, malheureusement. Paix à leur âme. Et qui ont fait beaucoup pour que ce 17 octobre soit connu. D'abord... en ce qui concerne Jean-Luc Elodie, on peut dire que ça a été l'œuvre de sa vie et il faut vraiment lui rendre un hommage vibrant à ce propos il en a fait la bataille de sa vie. Lui, il a écrit un livre qui s'appelle La bataille de Paris, mais on peut dire que c'était la bataille de sa vie. Faire connaître ce 17 octobre. Alors, c'est très important, parce qu'au départ, Jean-Luc Elodi n'est pas historien de formation, il était éducateur de justice de formation, et donc, du coup, il est devenu historien, et il a hautement gagné ses galons d'historien, en s'impliquant complètement dans la mise en évidence de cette histoire du 17 octobre extraordinaire. Et il a écrit plusieurs livres à ce propos, que je vous conseille évidemment, notamment La bataille de Paris. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, Mouloud Aounit, évidemment, qui nous a quittés également. Donc, Jean-Luc Elodi, c'était en mars dernier. Et Mouloud Aounit, c'était il y a 3 ans maintenant ?
2 ans.
2 ans, oui. Qui a aussi consacré beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et qui a beaucoup pris sur lui-même, justement, qui a été même attaqué, vilipendé, pour cette défense de la mémoire du 17 octobre.
On a fait le premier appel à personnalité en septembre. 91.
Voilà, en septembre 91.
Pour le 17 octobre. Et le livre est paru de Jean-Luc le 17 octobre.
Voilà. Donc c'est important parce que ça veut dire que cette histoire, elle est ce travail, il est le fait d'hommes qui se dévouent à cette cause, et ça ne vient pas du ciel. Et s'il n'y avait pas des gens comme Elodi, ouais, et comme Mouloud, on aurait beaucoup plus de difficultés, évidemment. Alors, cela étant dit, nous poursuivons. Donc ce 17 octobre, très rapidement, pour les gens, et je vois nos amis allemands qui sont au fond pour en dire un mot, ce 17 octobre 61 intervient dans un contexte, c'est la guerre d'Algérie, mais en même temps, le 17 octobre n'est pas quelque chose qui détonne dans l'ambiance particulière de cette époque, puisque c'est la guerre effectivement, mais la guerre aussi en France. Sauf quand même qu'il faut préciser une chose, c'est que le FLN algérien n'a jamais posé de bombe en France, contrairement aux mensonges qu'ils ont dit, n'a jamais fait d'attentat massacre en France de toute la guerre d'Algérie, c'est important de le dire. Et les seules bombes qui ont été posées l'ont été contre les raffineries de Fos-sur-Mer du côté de Marseille, c'était des citernes d'essence, c'est un attentat d'ailleurs que l'on doit à Mohamed Boudia, regretter Mohamed Boudia, qui était un militant du FLN, qui mourra par la suite assassiné par le Mossad israélien dans les années 70, parce qu'après la guerre d'Algérie, il deviendra militant de la cause palestinienne. Il sera assassiné à Paris. C'est un des crimes aussi du Mossad israélien à Paris, dans les années 70. Donc, en tout cas, Mohamed Boudia, pendant la guerre d'Algérie, était un militant du FLN. C'est lui qui a mis donc ces bombes. Et ces bombes n'ont pas fait de victimes civiles. Donc, par contre, le FLN a porté des armes contre les forces de l'ordre parisiennes. Et ça a été dit, ça a été expliqué, ça a été justifié pour, entre autres, répliquer à l'usage massif de la torture et déjà aux exactions qui étaient faites. Parce que les morts ne datent pas du 17 octobre, évidemment. Pendant toute la guerre d'Algérie, on l'a dit souvent, les Algériens qui étaient arrêtés, qui étaient raflés à Barbès ou ailleurs, étaient conduits dans les commissariats, et tous les grands commissariats de banlieue devenaient des centres de torture. Je vous parlais d'Argenteuil tout à l'heure, ma ville que je connais bien. Argenteuil était un centre de torture. Le grand commissariat d'Argenteuil, c'est une grande ville de banlieue à 10 km, était un centre de torture. En plus, le commissariat était situé non loin de la Seine, ça tombait bien, et les corps arrivaient debout au commissariat, ressortait couché et était balancé dans la Seine à 200 mètres du commissariat. C'est un fait précis. Donc, c'était en permanence cela. C'était le quotidien. Donc, le FLN va effectivement porter les armes contre les forces de police. Et entre autres, cette année, donc 61, il y a une vingtaine de morts. Il y a une vingtaine, 20-22 morts policiers. Comment ce sont les représailles du FLN contre les forces de police. C'était des policiers qui étaient ciblés, mais aussi donc des policiers à cause de leur uniforme, mais aussi c'était ciblé également des commissaires de la DST, etc., particulièrement actifs dans la torture. C'était tout cela. C'était une guerre donc, qui se battait, on peut le dire, entre combattants, entre policiers, comme on l'a dit, qui étaient transformés en soldats, et puis militants du FLN. Il en va autrement de tous ces manifestants qui vont être arrêtés le 17 octobre. On l'a dit, le FLN avait demandé à ce que les manifestants n'aient même pas une mine à ongles sur eux. Pour empêcher toute provocation. Ils sont allés, ils étaient en costume, ils ont mis leur costume, on le voit sur les images, ils ont mis leur beau costume. C'était une façon de s'exposer, de montrer. On veut interdire à des gens de montrer leur corps, en quelque sorte, l'indigène, d'exposer leur corps à cause de ce couvre-feu qui a été instauré. Et pourquoi est-ce que ce couvre-feu a été instauré? Ce couvre-feu a été instauré pour lutter contre les FLN, et notamment, vous savez que la France était une base arrière du FLN. Pourquoi? Notamment pour la récolte de l'impôt révolutionnaire. C'était très important parce que chaque travailleur algérien versait une cotisation au FLN. Cet argent était absolument vital, essentiel pour la guerre révolutionnaire. Et donc, c'est la raison pour laquelle, entre autres, le FLN n'a jamais voulu porter le feu, entre autres, en France. Il fallait absolument à ce que la collecte de fonds, qui était vitale, qui permettra ensuite d'acheter des armes, de nourrir les familles, de soutenir les prisonniers, eh bien, il fallait que ça puisse se produire convenablement. Du coup, la police française, qui avait parfaitement compris cela, eh bien, instaure le couvre-feu. Ce couvre-feu était destiné évidemment à empêcher les commandos du FLN d'agir le soir, mais aussi à empêcher les collecteurs de fonds, parce que les collecteurs de fonds, c'est le soir qu'ils se promenaient de quartier en quartier, de bidonville en bidonville pour aller récolter l'argent. Donc là, on bloquait toute circulation de ces... Voilà. Donc le but était là. Donc il fallait absolument répondre à ce couvre-feu qui menaçait directement l'activité du FLN et l'activité politique. Donc voilà pourquoi il a été décidé par la Fédération de France de faire cette manifestation le 17 octobre. Concernant les forces politiques françaises, il n'y avait plus de lien avec le Parti communiste depuis 50... Enfin, les liens avaient été rompus en 1956 entre le FLN et le Parti communiste français. Pourquoi ? Parce que le Parti communiste français avait soutenu la politique répressive de Guy Mollet et avait voté les pleins pouvoirs, les pouvoirs spéciaux donc à Guy Mollet, président du Conseil socialiste, hein, en 1956. Il est important de le dire. Quelques mois avant la manifestation du 17 octobre, les liens ont été rétablis et le FLN avait informé le Parti communiste de sa volonté de faire cette manifestation. Le Parti communiste ne l'a pas pour autant soutenu. Effectivement, il y a eu des déclarations syndicales et autres, mais qui étaient vraiment très très faiblardes, on peut le dire, très très faiblardes. Alors, concernant les faits donc, qui sont établis, les manifestants, plusieurs centaines, on ne saura jamais. Pour une bonne et simple raison, c'est que le gouvernement français refuse absolument de faire une commission d'enquête. Donc, refusant de faire une commission d'enquête, il dit ces chiffres de plusieurs centaines de morts sont subjectifs, mais en même temps, il empêche qu'il y ait une commission d'enquête qui fasse la lumière là-dessus. Donc là, il y a une véritable schizophrénie, c'est extrêmement grave, on voit bien qu'il y a une volonté de dissimuler la vérité. Commission d'enquête indépendante, évidemment. Ça, c'est un fait, premièrement. Alors, ça n'empêche pas Mitterrand, le ministre de la Culture à l'époque, là... dans le film, de dire qu'il faut laisser faire le travail des historiens. Mais en même temps, on l'empêche, parce que je tiens à signaler une chose, c'est que les archives de la ville de Paris, l'archiviste, le fameux archiviste de la ville de Paris, qui est allé mettre son nez dans les archives, a été sanctionné. Il s'était retrouvé dans un placard, comme on dit. Hein. Et c'est lui qui avait permis, comment ? Les deux archivistes. Et s'était retrouvé dans un placard. Donc vous voyez le mensonge d'État se poursuit. D'un côté, on dit, mais non, il faut laisser faire le travail des historiens. Et puis ensuite, on dit, dès qu'ils veulent le faire, on les sanctionne, on les empêche, etc. Ça c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, de façon générale. Donc, ça, c'est un fait. Un autre fait également, donc, les manifestants, plusieurs centaines au moins, sont noyés, sont tués par balles, sont pendus au bois de Boulogne, hein, pendus au bois de Vincennes, au bois de Boulogne. Il y a des faits précis, des corps qui ont été retrouvés pendus par les forces de police, sont amenés dans tous les stades, on a mis à contribution. C'est pour ça que c'est un massacre d'État. Parce que tous les corps de l'État vont être mis à contribution pour ce massacre. Donc c'est pas uniquement la police, mais c'est la RATP qui, je vous l'ai dit, les quarts pleins sont amenés directement, la RATP qui collabore totalement, comme elle avait collaboré d'ailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale, à la déportation des Juifs, lors de la fameuse rafle. C'est également le ministre de la Jeunesse et des Sports. Bon, enfin, le ministre de l'Intérieur, évidemment, ça c'est Roger Frey. Mais la Jeunesse et les Sports, alors, tous les stades sont mis à disposition. Alors, le palais des sports de la Porte de Versailles, le stade Pierre de Coubertin, sinon le Vincennes aussi, le centre de Vincennes, le centre militaire de Vincennes. Et donc, tous les manifestants, environ 11 000, 13 000, qui vont être arrêtés. C'est énorme d'arrêter 11 000, 13 000 personnes, je ne sais pas si vous imaginez. C'est énorme. Eh bien, ceux qui n'ont pas été tués, ceux qui ont donc été massacrés, blessés, etc., toutes ces personnes arrêtées vont être conduites dans tous ces centres où ils vont être gardés pendant près d'une semaine. Et on va les trier, on va les interroger. Donc, ils sont là, et ils n'ont rien, ils ont leurs vêtements. On va les laisser dans leur situation, vous imaginez un petit peu, au niveau de l'hygiène, pendant une semaine, comme cela, dormant par terre, notamment à la Porte de Versailles. Et un certain nombre vont mourir pendant ces jours-ci, parce qu'ils ont été complètement blessés pendant la manifestation. On les laisse sans soins. Et il y a des témoignages d'un appelé qui dira qu'il a ouvert une sorte de buanderie. Il a trouvé plusieurs corps qui étaient là déjà, des morts. Comme ça, on les mettait derrière une buanderie, comme ça. Et les gens étaient appelés au micro exactement comme pendant la rave du Veldiv. Et on les interrogeait parce que le but était de découvrir parmi les manifestants, en quelque sorte, les commissaires politiques du FLN. Les militants du FLN, de façon évidemment à obtenir ensuite à passer à un niveau supérieur de torture, d'extorsion, d'aveu. Donc voilà, donc le but était de découvrir les collecteurs du FLN parmi ces manifestants. Donc pendant près d'une semaine. C'est-à-dire que pendant une semaine, Eh bien, la classe politique française, qu'est-ce qu'elle fait? Mis à part quelques interventions, quelques demandes de commission d'enquête, elle ne fait rien. Que font les partis de gauche, notamment la SFIO, Parti Socialiste? Rien, niente, niente di niente, rien du tout, sauf une demande de commission d'enquête. Bon, il y a Claude Bourdet, qui a été très courageux, au Conseil de Paris, mais c'est tout. Il y a une commission d'enquête, je crois que Mitterrand aussi, mais attention, faut bien comprendre une chose, on demande une commission d'enquête, non pas pour dire c'est très grave ce qui s'est passé concernant les Algériens, mais pour dire, pour interpeller le gouvernement en disant vous êtes incapable de maintenir l'ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes incapable de maintenir l'ordre. Regardez, il y a ces musulmans qui fichent la pagaille dans Paris, et vous savez que c'est régulier, et vous êtes incapable de maintenir l'ordre. C'est pas du tout pour dire c'est très grave. Alors ensuite, il y a tous ces manifestants qui sont, une fois triés, vont être expulsés en Algérie. Alors c'est attenant, on les expulse d'une partie du pays à l'autre. Et donc, c'est la raison pour laquelle aussi on a beaucoup de mal à voir qui est mort. Certains mourront peut-être en Algérie, ou d'autres vont mourir de leurs blessures, parce que évidemment, ils ne vont pas oser aller se faire soigner dans les hôpitaux, et un certain nombre sont morts aussi dans les bidonvilles, hein, et on n'a pas osé déclarer leur mort, évidemment. Je veux dire, bon, ils sont morts des suites de leurs blessures, parce que ce sont des terribles blessures. Ce sont des blessures par matraque, c'est épouvantable, c'est ce qu'on appelle des bidules. Ce sont ces grosses matraques en bois qui vous fracassent un crâne, hein, je veux dire, et on a vu des policiers continuer à achever des gens avec des matraques brisées et leur planter dans le visage, etc. Il y a plusieurs faits comme cela. Donc ça a été une effroyable boucherie. Ça n'a pas été des gens qui sont morts. Non, on voulait tuer. Aussi ces appels, ces appels radio, lorsqu'on a fait croire qu'une dizaine, on le voit dans le film, hein, lorsqu'on a fait croire qu'une dizaine de policiers étaient morts, et on a délibérément fait passer ce message dans les quarts de police, en faisant croire aux policiers qu'une dizaine, si c'était nécessaire, qu'une dizaine de policiers étaient morts pour activer la sauvagerie des policiers. Et puis, il y avait le fait que tous ces policiers avaient un frère, il y avait un cousin qui faisait la guerre en Algérie. Et c'était aussi cette vengeance organisée délibérément par l'État. Alors, sur les responsabilités, sur l'État, ensuite, je dirai un mot encore à nouveau sur l'opposition. Eh bien, l'État, il est évident que pendant longtemps, Maurice Papon a servi de paravent. Il est évident que c'est au plus haut niveau qu'il y a une responsabilité. Et c'est là où on se démarque, en tout cas en ce qui concerne notre parti, d'un certain nombre de personnes, c'est que nous mettons en cause directement De Gaulle, bien évidemment, et Michel Debré. Pourquoi De Gaulle et Michel? Je dis Michel De Gaulle et Michel Debré, parce qu'ils n'avaient pas forcément le même intérêt l'un et l'autre. Enfin, en même temps, ça a été un intérêt convergent, au final, en ce sens qu'il y a des négociations qui ont lieu à ce moment-là. Nous sommes en octobre 61. Des négociations ont lieu qui ne sont même pas secrètes entre le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, et l'État français. Des négociations qui sont menées à Évian. Et donc, du coup, eh bien, De Gaulle mène ces négociations. Michel Debré est contre ces négociations. Michel Debré, le Premier ministre, le père de la Constitution, est contre absolument les négociations. Il est Algérie française à 100%. Il est Algérie française. Il n'est pas le seul. Un certain Giscard d'Estaing également.
Papon,
oui, Papon, bien sûr. Et Papon, je rappelle, qui a été préfet de Constantine en Algérie, et qui était aussi Papon. Alors, ça, c'est aussi intéressant. Qui va récupérer tout le personnel de la préfecture de police, l'ancien personnel de ce qu'on appelait le bureau des affaires nord-africaines à Paris, avant la Seconde Guerre mondiale, et qui était chargé des nord-africains. Il y avait un bureau spécial qui était chargé des nord-africains à Barbès, hein, une police spéciale. C'est cette police qui ensuite intégrera la Gestapo.
Ouais,
c'est cette police qui intégrera la Gestapo, on l'appelait la Gestapo française, vous connaissez, on appelait ça la Carlingue, enfin c'était le nom, avec le fameux Bonny et Lafont. Bonny et Lafont, qui étaient deux représentants de justice, deux gangsters, qui vont organiser la Gestapo française, pour le compte de la Gestapo allemande. Hein. Et donc, le personnel qu'ils auront avec eux, et ben, c'était des gens qui venaient du bureau des affaires arabes. Donc, des fonctionnaires français du bureau des affaires arabes. C'est intéressant, hein, comme quoi rien ne se perd, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, comme a dit un certain Lavoisier. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce sont ces gens-là que Papon va faire venir, après une période où il va être mis un petit peu au frigo, après la guerre, hein, donc il est envoyé donc comme préfet itinérant à Constantine. Et là, eh bien, lorsqu'il revient à Paris, à la préfecture de police, eh bien, entre-temps, il y a eu l'amnistie. Tous ces gens-là qui ont eu des soucis, évidemment, la Gestapo française, ça a été vite lavé, on est en 58, comme en 58-59, il y a l'amnistie, donc ces gens-là reprennent du service, et ils les rappellent. Donc ce sont les mêmes gens qui avaient servi, Bureau des Affaires Nord-Africaines, sous Vichy, et puis donc formés dans l'esprit raciste, l'esprit colonial, ce sont eux qu'on retrouve le 17 octobre 61 en poste dans la préfecture. Je parle même des gradés, hein, je parle pas de... Non, il n'y a pas eu de massacre à Constantine, mais cette période-là est ici, en 45. Le mai 45, c'est la région du Constantinois, c'est Ifigelma. Oui, c'est la région du Constantinois. Mais en même temps, c'était un massacre permanent, on peut dire. C'est pour ça qu'on est devant la guerre d'Algérie. Comment ? Non, je dis, on est devant une situation où il y a un massacre permanent, en fait. Hein. Oui. De temps en temps, il y a un massacre qui émerge, mais en fait, c'est cette ambiance de torture, c'est de massacre.
L'état de massacre.
Voilà, c'est l'état massacre de disparition, ça a lieu en permanence. Exactement, c'est l'ambiance coloniale. Alors, tout ça pour vous dire que ce 17 octobre, Papon va agir, mais sous les ordres du gouvernement. Il est couvert, donc, par le Premier ministre, et bien, par le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, évidemment, par le Premier ministre, Michel Debré, évidemment. Et là, c'est intéressant de comprendre qu'il y a deux stratégies différentes qui s'opposent entre De Gaulle et Michel Debré. C'est que De Gaulle, lui, il mène des négociations avec le FLN, mais vous savez, dans des négociations, il faut toujours essayer de négocier en position de force. Casser le FLN à Paris, qui était comme une structure très forte, organisée, clandestine certes, mais qui maintenait vraiment la communauté algérienne, et même d'une main de fer, c'est la vérité, même d'une main de fer, il faut le dire, mais casser le FLN, c'était négocier en position de force. C'était négocier en position de force à Évian. Donc ça, c'est du point de vue de De Gaulle. Donc De Gaulle avait intérêt à laisser faire une répression. Debré, lui, pour des raisons opposées, différentes, il est partisan de l'Algérie française. Lui, il veut casser le FLN pour montrer qu'évidemment la France est la plus forte en Algérie, mais également en France. Et surtout, il a aussi l'idée que cela va entraîner de la part du FLN des représailles en France contre la population massive, justement, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure, et que cela va faire capoter les accords d'Évian. Donc on voit que pour des raisons diamétralement opposées, De Gaulle comme Debré ont un certain intérêt à casser le FLN, d'où cette répression du 17 octobre. C'est cela la clé d'explication. Sinon on ne comprendrait pas qu'un préfet de police, d'ailleurs je vais en arriver à aujourd'hui, puisqu'on va reparler de la préfecture de police, avec qui nous avons eu affaire l'été dernier, à propos des manifestations de Palestine. J'en dirai un mot, parce que c'est intéressant le lien qui se fait. On ne voit pas comment un préfet de police pourrait, de lui-même, prendre une telle décision énorme d'organiser un massacre, parce que c'est un véritable massacre. Ce massacre, en réalité, a été organisé par le pouvoir gaulliste de l'époque. Et il est important de le comprendre.
Et De Gaulle a dit « le sang sèche vite ».
De Gaulle a dit « le sang sèche vite ». Absolument. Le sang sèche vite, surtout quand c'est le sang des autres. Pas le sang des Blancs, évidemment, et surtout pas des Français. C'est un sang qui est absolument qui ne sèche jamais, qui reste éclatant, d'un rouge extraordinaire, pur et tout. Et voilà. Donc, il est important de comprendre cela. Et nous nous démarquons, en ce qui concerne le pire, de beaucoup d'explications qui sont faites, qui ont eu trop tendance à uniquement incriminer Papon. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de... Je vous ai dit ce qu'on pouvait penser de Papon.
Oui, c'est le bras armé, quoi.
Mais absolument, Papon a agi sur ordre. Il a agi sur ordre, il est important. C'est pour ça que, dans ton film, c'est très bien d'avoir mis cette citation de l'ordre français, cette citation de Debré.
Oui, c'est ça.
Parce que trop longtemps, et... Bon, je vais vous dire une chose, quand on a commencé à parler du 17 octobre pour la première fois, moi je me souviens que c'était par le journal Libération, et c'était en 1979, ça ne nous rajeunit pas, je le sais, c'était en 1979-1980 que pour la première fois un journal français parle du 17 octobre après la guerre d'Algérie. Hein, bon. Et donc du coup, et à l'époque, le journal Libération parle de 800 morts. Et vous savez, la mémoire de nos parents nous ont jamais raconté ce qui s'était passé le 17 octobre. Je ne sais pas s'il y a des Algériens dans la salle, mais il y a toujours cette pudeur. Et d'ailleurs, de la même façon qu'après la Seconde Guerre mondiale, les gens qui revenaient des camps d'extermination, parlaient très peu de ce qui leur était arrivé. Ça, c'est connu, on ne parle jamais des souffrances qu'on a vécues. On dit c'est un autre temps, on ne va pas embêter nos enfants avec cela, etc., etc. Donc ma mère, quand je lui demande, c'est... Le 17 octobre se perd dans toutes les autres manifestations, parce qu'il y a eu plein d'autres manifestations. Bon, le 17 octobre, elle n'y était pas, elle en l'occurrence, mais elle sera arrêtée par la suite à la manifestation du 20. C'est le 20 octobre, c'est ça qui c'est aux alentours du 20 octobre, la manifestation de femmes qui demande des comptes sur ce qui s'est passé. Hein, et qui va. Donc voilà. Et donc, du coup, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette mémoire du 17 octobre, elle est restée enfermée. Et je dois le dire quand même. Parce qu'on voit David Assouline, C'est gentil, David Assouline, sénateur PS qui demande des comptes, mais il devrait d'abord aussi demander des comptes à son propre parti, le Parti Socialiste, qui était le parti colonial par excellence, juste, on pourrait, rien que sur le Parti Socialiste, faire toute une conférence. Hein. Le Parti Socialiste, c'est la question coloniale, c'est très très intéressant.
Oui, ils se donnent bonne conscience. Là.
Bien sûr, mais non seulement ils se donnent bonne conscience, mais il faut savoir que le Parti Socialiste est totalement pour l'Algérie française. C'est-à-dire qu'on vous parle de De Gaulle, de Brémy, le Parti Socialiste, il n'y a aucune hésitation. Il est totalement pour l'Algérie française. Et mis à part des gens comme Claude Bourdet, effectivement, qui est quand même proche de la SFIO, mais quelques personnes comme cela, il est totalement pour l'Algérie française. Juste une petite anecdote, il faut savoir qu'un des grands pontes de la SFIO, Sekaldi Reno, qui s'appelle Sekaldi Reno, dont la fille continue à œuvrer du côté de Neuilly, là, qui était en bisbille avec Sarkozy, eh bien, il faut savoir que Sekaldi Reno, qui a été donc le maire de Puteaux, exactement, eh bien, Sekaldi Reno vient d'Algérie. Donc, il était en poste en Algérie. Son père, donc, hein, cette fille. Il était directeur de la DST à Alger. Figurez-vous que non, il était directeur de la DST, ça, c'était sa profession. Mais au plan politique, il était le chef de la SFIO à Alger. Bien sûr, le chef de la SFIO, du Parti Socialiste, et directeur de la DST qui torturait déjà... qui mieux, c'était extraordinaire. C'est intéressant de voir cela. Bien sûr. Et il revient en France ensuite. Il revient en France, le fameux Sekaldi Reno. Et en France, il va changer d'étiquette politique. Il va devenir gaulliste. Il va devenir gaulliste à Puteaux. D'ailleurs, il va usurper la municipalité de Puteaux en la prenant à un certain Dardel, le père de notre ami Guy Dardel. Donc voilà, toujours est-il que. Bon, c'est intéressant de voir qu'il y a cette grande connivence entre la SFIO. C'est le premier parti en Algérie, la SFIO, attention. C'est le premier parti parmi les pieds-noirs. Le premier parti, c'est le Parti Socialiste, parmi les pieds-noirs. Alors, on est totalement socialiste en ce qui concerne les colons blancs, mais en ce qui concerne les indigènes, on est totalement répressif. Alors, c'est intéressant. Et quant au Parti communiste, bah, le Parti communiste, il est prisonnier de ses alliances. En 1956, on l'a dit, il a voté les pleins pouvoirs à Guy Mollet, hein, c'est la gauche, évidemment. Et il contrairement, alors, je n'ai pas envie de m'en prendre au Parti communiste, parce que c'est quand même le seul qui va... Mais le Parti communiste, malgré tout, malheureusement, il va être extrêmement timide, c'est très bien dit dans le film, hein, très timide. Et alors par contre, il y a des militants de base du Parti communiste qui ont été absolument extraordinaires, exceptionnels, qui vont payer leur vie en Algérie, hein, également en France. On va le voir évidemment à la manifestation de Charonne, on est bien d'accord. Hein. Mais malheureusement, la direction du Parti communiste, prisonnière de son alliance avec le Parti socialiste, ne va jamais oser... dénoncer complètement cette guerre coloniale, demande et à tous ces militants qui disent « Mais attends, il faut appeler à la désertion, il faut appeler à la désertion, il ne faut pas qu'on parte. » Eh bien, le Parti communiste dit « Non, absolument pas. Il faut aller en Algérie et faire du travail de conscientisation au sein de l'armée. » Concernant cela, ce travail de conscientisation, il y a notre excellent ami René Vautier qui tord le cou à cette légende, René Vautier, le cinéaste, dont je vous conseille absolument les films, notamment le film « Avoir 20 ans dans les Aurès », absolument extraordinaire, fabuleux, qui montre bien comment c'était impossible. Comment dès l'instant où vous mettiez le pied dans cet engrenage de la guerre, vous aviez beau être l'individu le plus humaniste de la Terre, d'accord, le plus anti-militariste de la Terre, vous étiez fichu et vous deveniez un parfait tortionnaire. Et c'est ce qu'il montre très bien dans son film « Avoir 20 ans dans les Aurès ». Hein, en gros, la chanson le dit « Je t'avais dit de ne pas mettre ton pied dans ce merdier ». En gros, c'est ce que dit la chanson de...
On va tirer de l'histoire de Noël Favrelière.
Voilà, voilà, absolument. Donc voilà, donc le problème il est là. Donc du coup, eh bien, les Algériens ont quand même quelques alliés dans la société française de l'époque. Et y a quand même beaucoup de chrétiens, un certain nombre de chrétiens, notamment des réseaux Janson, etc. Ouais. Et puis il y aura le PSU. Le PSU qui sont des socialistes, qui sont en opposition avec la SFIO évidemment, qui vont constituer le PSU, Parti Socialiste Unifié, avec un certain Michel Rocard dedans, un des fondateurs, et qui va être assez bien, puisque ça va être Michel Rocard en tant qu'inspecteur des impôts. On a un ami là-bas qui... aux impôts, inspecteur des impôts. Donc, Michel Rocard, en tant qu'inspecteur des impôts, il va se voir confier une mission en Algérie et on doit à Michel Rocard, bien sûr, le rapport sur les camps de concentration français en Algérie, parce qu'il y avait des camps de concentration, je ne sais pas si vous saviez, français en Algérie. Il y a eu quand même 1,5 million d'Algériens qui ont été mis dans ces camps. Ce qu'on appelait les camps, alors ils ont porté, on leur a donné plusieurs noms. En gros, c'était quoi? C'était les villages qui étaient en contact avec les zones où le FLN était très actif. Ces villages étaient vidés, leur population, s'ils refusaient de devenir harkis. Et là, ça me permet de dire un mot sur les harkis aussi. Les harkis ont été fabriqués. C'est la légende, une des grandes autres légendes à l'égard d'Algérie, c'était ces Algériens qui ont choisi de combattre aux côtés de la France. Mis à part une minorité, on peut dire de quelques dizaines de milliers, 10, 20, 30 000, l'immense majorité des 200 000 harkis à peu près sont des gens qu'on a forcés à devenir harkis. Je vous conseille un excellent film qui raconte très bien cela, et c'est un roman d'un Algérien, Boudoun Bamri, qui est L'opium et le bâton. L'opium et le bâton, il y a un film qui a été fait extraordinaire, qui montre très bien comment tout village qui ne pouvait pas, qui refusait de devenir harki, de collaborer avec l'armée française, eh bien, était détruit. Les gens avaient 15 minutes pour évacuer le village. Il était détruit au canon, d'accord, au mortier. Et la population était entièrement déportée dans ces camps de concentration, qui étaient dans des conditions absolument terribles, d'insalubrité, de mauvais traitements, de mauvaise nourriture. Les hommes fuyaient, il ne restait plus que les femmes, les enfants, et ça devenait un centre de viol pour l'armée française. Mais absolument, absolument. Et c'était ça, ces villages, on appelle ça les villages de regroupement, chose que les Américains reprendront au Vietnam avec ce qu'on appelle les hameaux stratégiques. Et au Guatemala, ça sera fait également la même chose, hameaux stratégiques, qui étaient copiés sur ce que les Français ont fait en Algérie, les villages de regroupement. Enfin bref. Alors tout ça pour vous dire, il y a tant de choses à dire. Alors là-dessus, on doit quand même honorer l'action du Parti Socialiste Unifié, qui est le seul parti, avec Jean-Paul Sartre, qui quand même pour l'occasion a été très bien, je dis pour l'occasion parce que pour la Palestine c'est autre chose en ce qui le concerne, mais qui pour l'occasion a été très bien et qui manifeste, quelques jours après le 17 octobre, il y a une manifestation qui a lieu exactement ici, dans ce quartier, à 100 mètres. Maubert Mutualité, c'est la seule manifestation de protestation contre le 17 octobre qui aura lieu. Il y a des images, on le voit en train d'haranguer la foule et tout. Et donc, manifestation de protestation, et une autre qui aura lieu à Clichy, place Clichy, une manifestation de protestation contre la répression du 17 octobre.
Et qu'un article dans l'État moderne, je crois, non ?
Oui, oui, bien sûr, absolument, avec article dans l'État moderne. Alors, à la suite de quoi, les gens veulent aller plus loin, et ils proposent une nouvelle manifestation, tous ces militants du PSU, qui étaient des gens quand même formidables, il y avait parmi eux des appelés qui, en allant en Algérie, ont compris ce qui se passait, l'horreur de ce qui se passait. Malheureusement, ils n'étaient pas si nombreux, mais il y en a eu quand même quelques-uns. Et donc, du coup, ils interpellent le Parti communiste. Et ils disent au Parti communiste, il faut organiser une nouvelle manifestation Algériens et Français, bras dessus, bras dessous. Comme ça, ils ne seront pas réprimés.
Je veux dire un petit bémol, parce que j'aime pas l'anticommunisme, mais Jean-Louis Hurst avait tellement exprimé à la Sorbonne en 91 comment les locaux du Parti communiste étaient fermés.
Ah oui, alors...
Quand les gens voulaient se réfugier.
Alors, bien sûr.
La manif du Rex.
Bien sûr. J'en dis juste un mot après.
Et ensuite, on parle de Hurst.
Voilà, de Jean-Louis Hurst, qui nous a quittés également, il y a quelques mois aussi, décidément. Et donc, je dis un mot donc sur Hurts ensuite. Donc, toujours est-il que le Parti communiste refuse le principe de cette manifestation que lui proposent ces jeunes du PSU, bras dessus. C'est dans les jours qui suivent le 17 octobre. On est à la fin octobre ou début novembre. Et pourquoi est-ce qu'il refuse ? Il refuse en disant c'est de la provocation. Ce sera de la provocation que de faire cela. On propose quoi ? De manifester, bras dessus, comme ça on dit, bon, les forces de l'ordre n'oseront pas... réprimés, massacrés, voilà, non, c'est la provocation. Et c'est pour ça que je vous dis, le Parti communiste, il y a un problème, on aimerait bien que ce soit débattu, le problème n'est pas de mettre en accusation, mais comment on en arrive à ces situations, la question est là, hein. En aucune façon, on n'est pas ici à un tribunal, nous ne sommes pas ici à un tribunal, la question est de comprendre l'histoire, comment des faits s'agencent. Et alors le Parti communiste, pour revenir sur ce que disait Catherine, ce fameux 17 octobre, il y a un cortège qui est du côté de Bonne Nouvelle, d'un cinéma qui s'appelle Le Grand Rex, qui existe toujours. Alors, là, les manifestants sont copieusement massacrés. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de morts. Il y a aussi pas mal de gens qui se retrouvent dans le canal du côté de Goncourt, hein, aussi. Dans tout Paris, c'est une chasse à l'homme dans tout Paris, en fait. Hein. Et donc, du côté de Bonne Nouvelle, les gens font la queue devant le cinéma et ils aident des policiers de temps en temps. Il y en a un qui s'est caché ici, sous la voiture, là. Il y en a un sous la porte cochère. Mais absolument, c'est véridique. C'est à l'heure de l'entrée dans les cinémas. C'est pas un massacre qui a été anonyme la nuit. C'était la nuit, mais bon, cette période de l'année. Et les gens faisaient la queue pour aller au cinéma. On allait beaucoup au cinéma à l'époque, il faut quand même le savoir. C'est d'abord qu'on avait les informations, hein, il n'y avait pas la télévision. Et donc, du coup, il faut vraiment comprendre cela. C'est que ça s'est fait publiquement. C'est ça qui est grave. C'est pour ça qu'on parle de massacre démocratique. C'est pas un massacre qui s'est fait contre les gens. Les gens ont râlé, pas du tout, du tout. C'est ce qui interpelle. Comment on arrive à une telle déshumanisation ? C'est ça le problème. Et alors, du côté de Bonne Nouvelle, eh bien, le cortège de manifestants va être pris, évidemment, c'est la panique totale, il faut imaginer les cris, etc., les chaussures par terre, etc., les gens qu'on piétine, mais c'est épouvantable, on se bat à tuer, vous imaginez. Et des gens, les manifestants vont chercher à se réfugier dans le local du... C'est du Parti communiste ou de l'Humanité ?
C'était l'Humanité.
C'était le journal Humanité qui, à l'époque, était très lié au Parti communiste et qui se trouve par là-bas. Et alors, n'ayant pas d'ordre, alors c'est ce que j'ai lu une explication un jour là-dessus, le concierge du journal descendra pour fermer les grilles pour pas que les gens rentrent, se protéger à l'intérieur quand même. Faut pas exagérer. Donc, c'est comme ça qu'ils seront massacrés sur les grilles du journal Humanité, entre autres. Voilà. Donc il faut vraiment avoir en tête cette espèce de Saint-Barthélemy. Je pense que l'équivalent, c'est la Saint-Barthélemy, hein, ce qui a été fait aux protestants. Et donc, du coup, ça se fait publiquement. Et voilà. Ça, j'ai à peu près tout dit là-dessus. Donc, on va revenir avec juste le lien que je fais avec aujourd'hui. Donc, cette mémoire du 17 octobre a été complètement éteinte, occultée, d'autant plus qu'il y a cette loi, vous le savez, pour se couvrir. La République française, démocratique, populaire et sociale, selon son appel, laïque, il ne faut pas oublier, hein. Démocratique, laïque, sociale. Démocratique, laïque, sociale, eh bien...
Et indivisible.
Et oui, j'ai oublié, indivisible, laïque, démocratique et sociale. Eh bien, cette glorieuse République, dont nous sommes tous absolument fiers et émerveillés chaque matin quand je me réveille, c'est le salut au drapeau et tout, donc dans ma cuisine. Donc, il faut bien savoir que... elle s'est couverte. Et à la fin de la guerre d'Algérie, il y a une clause des accords d'Évian qui dit qu'aucune poursuite ne pourra être entreprise contre aucun des deux anciens belligérants. Vous voyez, on se couvre. Et une sorte d'amnistie. Cette amnistie sera renouvelée par Mitterrand, puisque dans les années 80, Mitterrand finira d'amnistier les anciens de l'OAS. Tout le monde sait ce qu'est l'OAS. L'OAS, c'est Organisation Armée Secrète. C'est donc une organisation qui se constitue avec le putsch des généraux, après le putsch des généraux d'Alger, la tentative de coup d'État qu'il y a à Alger en 61, la guerre d'Algérie. Hein. Et donc, du coup, l'OAS va se constituer... elle est très active. Partout. Dans toute l'Algérie et en France. Et on dira même...
À Constantine, je crois.
Oh, partout. Et elle a des correspondants à l'Élysée. Et on dit que c'est un certain Giscard d'Estaing qui est le correspondant de l'OAS à l'Élysée. Parce que l'OAS va chercher à assassiner De Gaulle. 22 ou 23 tentatives d'assassinat contre De Gaulle, dont le plus célèbre est l'attentat du Petit Clamart, qui s'est déroulé donc au Petit Clamart en banlieue, qui a été le plus sérieux, où la voiture a été criblée, il en a réchappé de peu. Mais l'OAS était extrêmement bien informé. Jusque à l'intérieur de l'Élysée, on dit. Hein, on dit que Giscard d'Estaing est un des honorables correspondants. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que l'OAS agit aussi en France. L'OAS fait des attentats massacres. Brigitte Bardot est échappée de peu, d'ailleurs. La bombe qui visait Brigitte Bardot va éborgner une petite fille qui habitait à côté. Enfin bon, il y a eu des tas de choses. Bon, mais l'OAS fait énormément d'attentats. Énormément. Et le tract de l'OAS disait vrai. L'OAS frappe où elle veut, quand elle veut. L'OS est au sein de l'armée, donc organisation secrète, avec d'anciens militaires, des pieds noirs, etc. etc. L'OS a été amnistié quand même dans les années 80 par Mitterrand. Les derniers ont été amnistiés par Mitterrand dans les années 80. Et on le voit aujourd'hui, au SARES, pardon.
C'est pas une amnistie proprement dit, c'est une réhabilitation des chefs de l'OS.
Dans leur grade, oui, et leur retraite. Oui, oui, oui. Oui, exactement.
Il y a les deux.
Il y a les deux. Ils sont amnistiés, ils sont rétablis. Oui, pour leur droit à la retraite, c'est important. C'est extraordinaire. Oui. Bon. Alors, on voit, cet État français a tout fait pour que ce soit blindé, pour qu'il n'y ait aucun souci, pour que ce massacre, eh bien, finalement, on vous dit, bah écoutez, c'était la guerre. Et comme je le dis dans le documentaire, depuis 1958, quand De Gaulle arrive. Il arrive au pouvoir comme président du Conseil. Alors il a un plan pour l'Algérie, en fait, on le sait bien. Et donc il va insister. Les Algériens, vous savez, les musulmans n'étaient pas citoyens français, étaient sujets. Il y avait un double standard dans la colonie. Il y avait les Français de souche, les souchiens, enfin les Français européens de souche, comme on disait, et il y avait les indigènes. D'accord ? Et donc, du coup, c'est là clin d'œil que je fais aux Européens de souche, hein, et aux Souchiens, c'est que c'est de là que vient l'expression, c'est une expression qui est typiquement coloniale, qui était absolument incroyable, c'était pour distinguer d'accord, les Français européens de souche, ou les autres, voilà, les autres. Et donc les musulmans, en tout cas, eux, sont indigènes, ce sont des sujets, ils ne sont pas citoyens. À partir de 1958, formellement, ils deviennent citoyens. Et de toute façon, quand un indigène algérien arrivait en France, par une sorte de tour de passe-passe très bizarre, il devenait citoyen. C'est-à-dire que les travailleurs algériens qui étaient en France étaient considérés comme citoyens. Mais pas quand ils étaient au bled. C'était comme ça. Comme si le fait de traverser la Méditerranée leur donnait une sorte de pouvoir magique, comme ça, ils devenaient citoyens. Alors, toujours est-il que c'est donc...
Que des Juifs en 1920, après le décret Crémieux.
Oui, alors...
C'était aussi une séparation...
Bien sûr.
Oui, oui. On parlait du décret Crémieux aussi.
Oui, oui. Alors, en 1871, alors les Juifs algériens...
En 1920, le décret Crémieux. Enfin,
non, c'est en 1971, le décret Crémieux.
Quand il y a eu basculement des citoyens en...
Ouais, ouais. Non, c'est
un peu plus tard, mais je sais pas.
C'est 1971. Mais alors, concernant. Alors, juste un mot. Alors, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça permet de voir comment le système colonial fragmente les populations entre arabes, berbères, juifs, européens de souche ou européens de la Méditerranée, hein, baltais, italiens, etc. Espagnols, énormément. Dans l'ouest de l'Algérie, ce sont surtout des Espagnols, d'ailleurs. Dans ma région, surtout des Espagnols. Des Français, comme on dit, de souche, il y en avait très, très peu. Hein. Bon, bref. Toujours est-il que cette fragmentation coloniale, il est intéressant de montrer aussi, le but est de diviser à l'infini. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que comment le... Je sais plus ce que je veux dire. Du coup, je ne sais plus. Bon, peu importe. Alors, toujours est-il que on en revient... Le système colonial organise un double standard et... Merci, Mehdi. Et donc... Les Algériens qui ont été tués, c'est important de le dire, sont citoyens depuis 1958. Donc on ne peut pas dire que c'était une guerre. C'est un État qui a massacré ses propres citoyens. Et donc pour la justice internationale, il ne peut pas y avoir d'amnistie. D'abord parce que c'est un crime contre l'humanité, même si ça avait été des étrangers. Mais ce qui aggrave la situation, c'est que c'est un crime contre l'humanité, contre ses propres citoyens. En termes de droit... Ça fait partie donc des revendications qui sont les nôtres, je les rappelle. Premièrement, véritable reconnaissance pleine et entière de ce massacre, et non pas reconnaissance du fait que des Algériens ont été tués. Et là, la nuance est intéressante, parce que ça veut dire, comme le dit aussi le cours Grand Maison hein, dans le film, mais il faut aller plus loin, évidemment, c'est la reconnaissance de la responsabilité de l'État français qui peut ouvrir... La voie à des poursuites. Et je rappelle qu'il ne peut pas y avoir d'amnistie et on ne peut pas s'auto-amnistier de crimes qu'on a commis. Ça, c'est quelque chose qui est très fort dans le droit international. On ne peut pas s'auto-amnistier de crimes qu'on a commis, ce serait trop facile sinon. Donc, aucune loi. Et même si le FLN et le gouvernement algérien sont d'accord, cela ne change rien. Le gouvernement algérien n'est pas responsable, d'accord, ne peut pas, même lui, empêcher que des poursuites aient lieu. Parce que il est aussi important d'expliquer que la logique d'un État, comme l'État algérien, n'est pas la nôtre, évidemment. Et ne peut pas être celle de l'immigration. Donc, peu importe les accords qui peuvent avoir été conclus entre l'État algérien et l'État français. Nous agissons au nom du droit international qui est supérieur au droit de ces deux États. Donc, ça veut dire donc que des poursuites pour crimes contre l'humanité sont parfaitement fondées, sont parfaitement possibles et sont même nécessaires. Parce que sinon, on se retrouvera dans la situation d'un massacre sans coupable. Alors, le lien que je voulais faire avec aujourd'hui... Alors, juste une chose, c'est que le lien avec l'été dernier, il est très intéressant parce que, d'ailleurs, beaucoup de jeunes qui, l'été dernier, lors des manifestations palestines, ont été aux prises avec les forces de l'ordre, un certain nombre, en tout cas, ont fait le lien avec le 17 octobre. Oui, et c'est pas un hasard si ce lien a été fait, et je l'ai entendu chez un certain nombre de personnes, parce que on a tout d'un coup un déchaînement policier, une brutalité incroyable, évidemment qui est sans commune mesure avec celle du 17 octobre, on est bien d'accord, hein. Mais il s'agit de jeunes citoyens, tout le monde a bien vu qu'ils n'étaient pas armés, tout le monde a bien vu qu'ils étaient même extrêmement bienveillants, qu'ils avaient même la plupart du temps des slogans très, très pacifiques et très même pacifistes, d'accord ? Et on va leur opposer une brutalité incroyable, avec d'abord cette interdiction de manifester, qui n'est pas sans rappeler pour beaucoup la manifestation du 17 octobre, même si évidemment, toute proportion gardée, évidemment, on est bien d'accord. Hein. Mais cette espèce d'État qui t'impose comme ça, qui impose de se taire sur ce qui se passe en Palestine, et qui ensuite va opposer une violence incroyable, alors que tout le monde l'a dit, il aurait été beaucoup plus pratique de laisser la manifestation se faire. Nous avions organisé la précédente manifestation sans problème, et donc nous étions parfaitement en mesure d'organiser cette manifestation. Et dans le bureau du préfet, lorsque nous avons rencontré donc le préfet pour essayer de négocier cette manifestation du 19 juillet, eh bien, on a cette même raison d'État qui est là, et en tout cas, nous, ça nous faisait quelque chose de nous retrouver dans le bureau du préfet, et on aurait pu avoir Maurice Papon, c'était le préfet de police, hein, exactement en face de nous, et c'est terrible de penser à cela. Surtout que nous avons traversé la cour de la préfecture de police, cette fameuse cour dont il est question dans le film, où 50 Algériens auraient été fusillés, auraient été abattus, cette fameuse cour de la préfecture de police, hein, qui est là-bas, où 50 Algériens auraient été fusillés, et ça, ce sont des faits qui sont attestés, c'est pour ça que Koulbourdet en parle, 50 manifestants qui auraient été directement fusillés dans la cour. Donc c'était très émouvant de passer là en se disant si les murs pouvaient parler. Enfin, ouais, et toujours est-il...
Confirmé par des policiers eux-mêmes.
Confirmé par des policiers eux-mêmes. Donc là-dessus, cette manifestation avec cette brutalité... regardez, on n'est pas en situation de guerre. On est en situation parfaitement pacifique. C'est un conflit qui ne concernait pas directement la France. On a bien vu, il faisait beau, etc. Les gens étaient venus en famille et tout et tout. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient à cette manifestation, mais quand on voit la brutalité qui s'est développée à cette manifestation du 19 juillet dernier, c'est quelque chose qui n'est pas sans rappeler ce dont est capable un État impérialiste. Vous mettez la même situation, les mêmes gens, les mêmes faits en situation de guerre, et ça vous donne le 17 octobre. Ça, c'est clair. Et ça vous donne le 17 octobre. Parce qu'on a eu quand même beaucoup d'estropiés ce jour-là, le 19 juillet. Et puis des gens ont été condamnés, dont certains vont passer en procès le 29 octobre prochain, je le rappelle. Et le 22, pour commencer, pour Alain Pojola, qui lui est accusé d'avoir organisé directement. Donc il était quand même important de le dire. Donc dans ces conditions, on a bien affaire à un État impérialiste qui n'a rien perdu de sa sauvagerie, de sa brutalité. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Et maintenant, et bien sûr, Jean-Jacques Béril.
J'en ai beaucoup moins à dire.
Oh, mais.
Parce que je ne suis pas historien comme toi.
Non, je t'en prie. Je vais te tendre la perche. Je vais te poser une question pour commencer, comme ça pourra avancer. Puis ensuite, vous pourrez évidemment poser vos questions. Donc, c'est un film qui. Et c'est ce que je trouve intéressant avec ton film. C'est un film qui porte sur la mémoire du 7 octobre, enfin, sur la mémoire, donc. Encore une fois, sur la façon dont ce souvenir du 7 octobre revient en force hein, à partir des années 2000, même si depuis très longtemps on manifestait régulièrement chaque année. Oui, je me rappelle, depuis les années 80, nous on manifestait, j'ai pas envie de. Alors avant, ça se faisait du côté du Grand Rex, justement. Et puis ensuite, il y a eu le MIB aussi dans les années 90. Bon, en tout cas, un certain nombre de personnes manifestaient pour cela depuis pas mal de temps. Et donc, je trouvais tout à fait intéressant. Le point de vue que tu as choisi, à savoir de filmer les réactions du 17 octobre ces dernières années. Et les faits ont été établis, il y a eu plusieurs films qui ont été faits là-dessus, qui sont très bien, et donc c'était intéressant effectivement de montrer comment ce 17 octobre était reçu.
Voilà. Reçu donc, par des gens.
Qu'est-ce que tu peux nous en dire
oui. Reçu par des gens, parce que moi ce qui m'a attrapé quand j'ai tourné ces images, c'était le jour de la commémoration en 2001.
Oui, ça commence en 2001, c'est ça hein.
C'était le 17 octobre 2001, et sur le pont, le quai de Gève, je ne sais pas comment il s'appelle, de l'autre côté de du pont, de la place Saint-Michel, là. Bon. Il y avait donc la cérémonie, la plaque, les flics...
Le quai des Orfèvres non,
oui.
Non.
Juste
le côté, oui, mais c'est le quai des Orfèvres, oui. Il y a le quai des Archives et le quai des Orfèvres, c'est ça.
Donc sur la place, il y avait les manifestants et contre-manifestants qui étaient venus et qui étaient barrés par la police. Quoi. Et j'allais rejoindre la commémoration et puis j'ai vu que ça chauffait un peu et ça m'a intéressé d'entendre un petit peu ce qu'ils disaient. Et comme j'avais un petit caméscope, j'étais un peu comme un poisson dans l'eau. Et j'ai remarqué quand je m'approchais, les gens continuaient comme si je n'étais pas là. Alors que s'ils savaient, il y avait des grandes caméras de télé qui étaient là. Et donc, dès qu'une grosse caméra arrivait, les gens se mettaient en représentation, ils baissaient d'un ton. Ce qui fait que j'ai chopé des trucs qui m'ont complètement stupéfait. Quoi. la désinformation, le mensonge, la haine, la bêtise, enfin, je veux dire, et bon, des gens, comme vous et moi, je veux dire, bon, mais, et tous, chacun, partenaire de la guerre d'Algérie, puisqu'il y avait Algérie française, fière d'être français, il y avait l'ancien du FLN, il y avait des anciens appelés, enfin, tout le monde était là, et donc c'était, on a l'impression, comme l'Histora, qu'on rejoue la guerre d'Algérie, quoi, 50 ans après. Ce qui veut dire que... Et donc, ça m'a... J'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais comment est-ce possible? J'ai montré ça à un prof des États-Unis qui est à Princeton et qui s'occupe de langue africaine, qui est nigérien d'origine. Et il était stupéfait parce qu'il m'a dit, mais ça, c'est ce qui s'est passé, il voulait dire la veille. Mais j'ai dit, non, c'est la guerre d'Algérie 50 ans avant. Mec, il m'a dit, mais c'est pas possible chez vous. Il dit, nous, on avait la guerre du Vietnam au repas à midi et soir, et bon, on l'a digéré. Et quand je lui ai dit qu'il n'y avait aucune information sur De Gaulle, puisqu'il verrouillait tout, et que donc l'opinion publique elle-même était verrouillée, quelque part, on ne pouvait pas prendre conscience. L'appel des intellectuels, c'est 1961, l'appel des 121. Ils ont attendu 8 ans pour. Donc, on s'est dit, mais. Et puis. On faisait le rapprochement entre le cours Grand Maison, entre l'Arabe de 42 et le 17 octobre, mais le Veldiv, le palais des sports, à part de ça, c'est l'ancien Veldiv.
Pas exactement.
Non, qui a été transformé.
Non, pas exactement. Non. Il n'existait plus le Veldiv au moment du 17 octobre.
Enfin bon.
Il n'existait plus le Veldiv.
Toutes choses
égales. Mais c'est la même chose, c'est la même chose.
Égales par ailleurs, oui. Et peut-être même les mêmes bus à 20 ans de
oui, différence. Alors les mêmes bus,
et peut-être
problème.
Même des mêmes chauffeurs. Enfin, je veux dire que. Et on est complètement sidérés.
Peut-être même certains policiers, même policiers.
Oui, certains policiers.
Bien sûr,
oui.
On est à peine 15 ans après donc la Seconde Guerre mondiale.
Et surtout quand on sait comment les policiers sont conduits, quand on lit le livre de Rachefus sur.
Absolument.
Tout à fait. Sur la police française pendant l'occupation. Et donc, on est stupéfait, on se dit, mais ce pays est complètement bloqué. Il y a une pérennité du racisme et de la xénophobie dans ce pays. Bon, aux États-Unis, qui ne sont pas des petits saints en la matière. Bon, ils sont quand même sortis de quelque chose et puis sont arrivés à dire un noir qui fait ce qu'il peut, mais enfin, je ne sais pas, c'est un autre problème. Mais en tout cas, là, ici, pour que, par exemple, je ne sais pas, imaginons Aimé Césaire, président de la République, impensable en France. On se demande pourquoi. Ça pose question, quoi. Alors, donc, dans le film, je voulais un peu. Enfin, profiter de tous ces éléments d'information que donnaient les gens spontanément, y compris cette femme pied noir qui certainement a dû souffrir, elle a dû peut-être des morts dans sa famille, je ne sais pas, mais on se rend compte à quel point la propagande, l'aliénation et tout ça fait que les gens sont capables de dire n'importe quoi et de faire n'importe quoi. Et quand tu dis que les choses peuvent aussi bien se reproduire, hein, parce que maintenant ou dans un mois, dans un an, on ne sait pas. Oui, puisque cette société n'a pas avancé et qu'il a fallu arracher à Hollande quelques mots du bout des lèvres. Donc, ce qui prouve bien qu'il y a un frein, une espèce de déni d'État permanent. Et Maigret l'exprime très bien quand il dit « Moi, ça ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est des pages glorieuses ». Donc, on est élevé avec ça à l'école, quoi, les 14, Napoléon, Jeanne d'Arc, machin et tout, mais surtout pas ce qui fâche. Donc, ce qui fait que ça fait un inconscient collectif qui est mal goupillé, quoi. Et c'est peut-être une des raisons qui fait qu'aussi il y a un malaise en France depuis pas mal de décennies, dans la tête, comme ça, parce que ça fait longtemps que, comme par exemple, je sais pas, tu parles du bouquin d'histoire, où on parle trois lignes sur le 17 octobre, et merde, c'est une des manifestations, un des massacres le plus grave d'après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à maintenant. Bon, et hop, je veux dire, ça c'est je.
Alors,
je comprends pas,
juste,
je comprends pas pourquoi.
Et même, oui, pire encore, dans la mesure où les crimes de la Seconde Guerre mondiale étaient faits sous la dictature de Pétain. Alors que là, c'est fait
voilà, c'est ça.
En plein système démocratique.
Oui, alors,
certes, c'était la guerre, mais il y avait la démocratie qui était là, qui fonctionnait, il y avait des lois, il y avait.
Voilà, raison de plus pour être complètement s'interroger, se demander. Et puis, ce qui est assez. Enfin, décourageant, il faut le constater, mais la réaction après la reconnaissance des faits avec lucidité de Hollande, S'il y avait autant de lucidité, il aurait pu aussi citer les coupables. Mais enfin, dès l'instant où on cite les coupables, après tout s'enchaîne.
Bien aura, sûr.
Ça, il aurait pas
c'est le petit bout de fil qu'on
tire avec le doigt dans l'engrenage.
Qui déroule toute la chaussette.
Mais oui, ce qui est stupéfiant, c'est d'entendre les réactions de gens qui, bon, mentalement, sont normalement constitués. Donc, on salit la France. On salit la France parce qu'on dit des choses qui se sont passées. Je veux dire, on en est là, mais alors donc ce pays est bloqué, n'avancera jamais. Mais comment il va se débloquer? Ça va exploser comment? Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça peut pas un tel enlisement dans l'histoire, dans la mémoire, dans l'effacement du souvenir, ça ressemble au régime totalitaire. Je veux dire que la spécialité des régimes totalitaires, c'était d'effacer la mémoire. Et donc là, ça se passe dans un régime démocratique, mais c'est un fait totalitaire que d'effacer la mémoire et d'effacer les souvenirs, d'effacer et puis de conserver ce qu'on veut et d'effacer ce qu'on ne veut pas pour qu'une classe garde un pouvoir. Alors là, je ne sais pas, mais enfin, c'est un peu ce que... Pour ça, ce genre de film permet d'ouvrir ce débat-là, quoi. I'm